17 juillet 36, déclenchement de la Révolution espagnole. Le 17 juillet 36, la garnison espagnole de Melilla, dirigée par Franco, se soulève contre le gouvernement républicain du Front populaire, élu en février 36. Cette date marque le début de la Révolution espagnole qui s'achèvera en mars 36 par la victoire de Franco et l'instauration d'une dictature qui durera 40 ans. Alors je pense que pour bien comprendre ce qui s'est passé en Espagne à ce moment-là, il est important de faire un bref retour en arrière. À la sortie de la boucherie qui a constitué la Première Guerre mondiale, les traumatismes sont immenses et durablement présents. Les vieilles démocraties bourgeoises, France-Angleterre, ont du plomb dans l'aile et voient avec inquiétude se développer les organisations se réclamant de la Révolution d'octobre. La Révolution allemande est écrasée. En décembre 1920, la guerre civile s'achève dans la toute jeune Union soviétique. Lénine meurt en 1924, laissant rapidement Staline mettre en place sa théorie de la Révolution dans un seul pays et éliminer toute forme d'opposition. Je le précise juste parce que je pense que ça aura un lien avec la suite de notre sujet. Donc c'est dans ce contexte qu'on va assister au cours des années 20 à un développement des organisations se réclamant du fascisme instauré par Mussolini en Italie en 1922. Des dictatures vont donc se multiplier en Europe, Portugal, Roumanie, Pologne, Hongrie, mais aussi dans le reste du monde, Brésil, Chine, entre autres. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Donc voilà, il nous semble important de savoir quel regard tu portes aujourd'hui sur la Révolution espagnole. Quelles conséquences cette défaite a pu avoir sur le monde et sur le mouvement ouvrier en général, et que tu précises l'importance qu'a pu occuper, voire occupe encore aujourd'hui, l'antifascisme sur le mouvement ouvrier.
Non, mais sur la Révolution espagnole elle-même, la grande question qui est posée, qui se discute encore sur la Révolution espagnole, c'était comment pouvait et est-ce que pouvait se combiner à ce moment-là une guerre civile de défense de la République ou de la démocratie, sans aller plus loin, ou bien une guerre civile qui associait étroitement la réplique au coup d'État franquiste, au coup d'État militaire, et l'approfondissement de la dynamique de révolution sociale. Ça, ça a été une ligne de partage fondamentale. C'est-à-dire, de la part principalement du Parti communiste, mais déjà adossé à l'appareil d'État soviétique, puisque ce Parti communiste était jeune et relativement faible, il a en grande partie tiré sa force du soutien matériel, et notamment du soutien militaire dans la crise elle-même, de l'Union soviétique, sur une ligne qui, à l'époque des fronts populaires, était une ligne de défense de la démocratie et sur l'idée que toute dynamique qui tendait à approfondir le contenu social de la Révolution espagnole dans le cadre de la guerre civile était un facteur de désordre, de division, d'affaiblissement contre la discipline nécessaire d'une armée relativement classique pour tenir tête à l'armée franquiste. Alors, c'est autour de cette question-là que c'est joué. Alors après, on peut toujours imaginer que le problème ne se réduit pas à ça, parce que les rapports internationaux, les rapports de force internationaux étaient tels que la condition de victoire de la République espagnole et du développement de la Révolution espagnole était de toute façon précaire. Pour au moins deux raisons. C'est d'une part la politique dite des démocraties européennes. Un des grands crimes quand même de ces démocraties, y compris leurs composantes socialistes ou social-démocrates à l'époque, c'est la non-intervention. Alors que l'Allemagne et l'Italie intervenaient ouvertement, Guernica, etc., etc., même avec des formes d'aide parfois un peu cachées, mais le principe respecté de non-intervention, finalement, on peut dire que les sociodémocrates sont intervenus partout, sauf quand il le fallait. Partout dans les guerres coloniales, partout dans les expéditions. Là où, effectivement, se jouait encore une fois une partie du sort de l'Europe et probablement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui explique d'ailleurs l'écho extraordinaire de la Révolution espagnole dans la littérature. de Hemingway à David Goudis, à Malraux, à Bernanos même. Bon, donc c'est un événement qui est aussi un déterminant du siècle, hein, et même des échos lointains, pour ceux qui connaissent, chez Malcolm Lowry, au-dessous du volcan, le bruit de fond, c'est « il faut envoyer des armes à l'Espagne républicaine ». Bon, et donc ça, c'est le point majeur. Alors c'est aussi la mise à l'épreuve à peu près des différentes orientations. C'est-à-dire, indépendamment de l'héroïsme indiscutable, de la générosité des militants et des combattants du Parti communiste, etc., mais c'est une ligne politique qui a une responsabilité très lourde probablement dans la défaite, ne serait-ce puisque maintenant l'affaire est mieux connue. Pendant toute une période, elle était connue essentiellement des milieux libertaires ou des milieux oppositionnels de gauche ou des lecteurs de Orwell et de son livre sur la Catalogne libre, mais dans une certaine mesure, on a parlé pour l'Allemagne de l'assassinat de Rosa Luxembourg, etc. Mais le sort de la guerre civile espagnole s'est déjà joué en partie dans les journées de mai 37 à Barcelone, c'est-à-dire dans la répression au sein du camp révolutionnaire de la composante libertaire et poumiste par la restauration d'un ordre militaire et étatique sous direction des staliniens. Bon, on a maintenant le film de Ken Loach qui s'inspire d'ailleurs du récit de Orwell, etc. Mais symboliquement, et pas seulement symboliquement, on peut dire que mai 37 en Catalogne illustre ça. Par ailleurs, toute l'histoire de la Révolution espagnole est aussi un test des différentes politiques. Et il y a du côté de la culture libertaire qui était très importante pour des raisons historiques, pour des raisons sociales, l'influence de Bakounine dans la composante espagnole de la Première Internationale, les racines des sociétés rurales en Andalousie notamment, etc., bon, qui donne une forte tradition libertaire qui a ses côtés positifs, c'est-à-dire les expériences d'auto-organisation, d'autogestion, de milices, l'épopée de Durruti, etc., mais qui, en même temps, finalement, en n'inscrivant pas dans le projet stratégique ou en pensant résoudre par la simple abolition des rapports de pouvoir, des rapports étatiques, le problème de la Révolution, se trouve finalement prise à contre-pied. C'est-à-dire, on ne veut pas salir les mains avec le pouvoir, on nie le problème du pouvoir, mais le problème du pouvoir vous rattrape, et on voit du coup des oscillations entre une intransigeance à la limite du purisme et puis finalement des compromis réalistes à un moment donné, et parfois même un peu ingénus avec les composantes du camp républicain. Bon, moi j'ai connu la queue de comète de ces débats, parce que Toulouse était quasiment ou en partie une ville espagnole, hein. Quand j'ai adhéré à la JC en 62, il y avait plus de jeunesse communiste espagnole, ils étaient plus nombreux que nous. Ma première manif, c'était pour l'assassinat et l'exécution de Julián Grimau, qui est dirigeant du Parti communiste espagnol en 62. Bon, et la Bourse du Travail de Toulouse, c'était les débats entre communistes, peut-être quelques poumistes, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, et surtout pas mal d'anars, qui refaisaient la bataille de Guadalajara, et 36, il y avait un côté ruminant comme ça, mais incontestablement, ça, bon, c'est ce qui a marqué. Alors, du côté de l'opposition de gauche espagnole, il y avait une petite opposition de gauche trotskiste, mais vraiment toute petite, qui a agi essentiellement à travers le POUM, et à partir de débats qui étaient compliqués. Parce que la conclusion qu'a tirée Trotsky de la victoire du nazisme en Allemagne de 1933, c'est que la montée du nazisme ou du fascisme en Europe allait réduire l'espace sur lequel pouvait vivre et éventuellement prospérer la social-démocratie, que la mise en cause du jeu démocratique parlementaire allait miner la base même de redistribution, de négociation, de compromis dont se nourrit la social-démocratie. Il en tire une conclusion qui n'était pas fausse du tout, qui était que confronté à cette menace, à la social-démocratie, où une partie d'entre elles devrait réagir, ne serait-ce que par un réflexe d'autodéfense, en se radicalisant sur la gauche. Dans une certaine mesure, ça a été le cas. Ça a été le cas en Autriche avec l'insurrection du Schutzbund en 1934, et des courants de gauche. Bon, avec toutes ses limites personnelles, Largo Caballero apparaîtrait comme un bolchevique fanatique aujourd'hui comparé aux dirigeants actuels de la social-démocratie. Bon. Mais du coup, l'idée, c'est qu'il fallait, pour des petits groupes, s'inscrire dans ce courant de radicalisation de la social-démocratie. Et à la rigueur, accepter qu'au vu de la situation particulière en Catalogne, il y ait un poum en Catalogne, mais que des révolutionnaires, pour le reste de l'Espagne, travaillent principalement dans le Parti socialiste. Bon, c'était des choix difficiles, il n'y a aucune évidence là-dedans. C'est vrai que le poum, si on compare à des organisations révolutionnaires aujourd'hui, a dû avoir jusqu'à 30 000 militants à peu près. Dans une situation révolutionnaire, ce n'est pas du tout négligeable. Mais avec un développement très inégal. Et puis là aussi, Andrés Nin n'a pas été tué par les troupes franquistes, mais aujourd'hui, l'enlèvement et l'assassinat de Nin à Alcalá de Henares par les staliniens est quelque chose d'avéré, de public en Espagne, c'est même plus discuté aujourd'hui. Bon, je ne dis pas que Nin aurait joué le rôle équivalent de Rosa Luxembourg, etc., mais bon, enfin, il y a quand même eu une double répression, c'est-à-dire la répression franquiste, puisque l'autre figure dirigeante du POUM, Maurine, a été arrêtée dès le début, finalement, du coup d'État. Et puis d'autres ont été exécutés dans leur propre camp. Je ne rentrerai pas sur les hypothèses sur la mort de Durruti, etc. Mais bon, en tout cas, les suspicions peuvent exister. Et il y a eu règlement de compte, incontestablement, dans le camp républicain, au détriment de sa composante révolutionnaire. Alors, je crois en plus que cette affaire espagnole a joué un rôle négatif, le mot n'est peut-être pas approprié, mais il y a une certaine sectarisation, par exemple, chez Trotsky au fil de ses écrits à ce moment-là. Et qu'on peut comprendre, en tout cas, d'un point de vue humain, pour ne pas parler psychologique, on sent qu'il y a un désespoir qui monte. Que chaque occasion perdue, alors ça a été la révolution allemande de 1923, ça a été la révolution chinoise, ça a été la victoire du nazisme en Allemagne, et maintenant la guerre civile espagnole. Bon, chaque occasion perdue rapproche d'une catastrophe. Et ça, c'est un des points sur lesquels Trotsky était lucide, sur la logique de la guerre annoncée, et même sur certains aspects de cette guerre. Par exemple, sur le génocide juif, c'est sûrement un des rares, en 1938, à avoir prévu ça. Bon. Mais en même temps, l'idée qu'on est tellement à contre-courant que si on regarde, et ça, c'est, à mon avis, une mauvaise école, une mauvaise culture, le ton des polémiques qu'il mène contre des dirigeants du POUM, qui sont des révolutionnaires, qui peuvent se tromper, ou contre Victor Serge, etc., c'est une culture de la polémique qui a une logique sectaire, il faut le dire comme ça. On peut en comprendre les raisons avec le recul. On n'est pas dans le tourbillon, on n'est pas dans le... Donc on a une certaine distance qui permet de comprendre, mais incontestablement, on voit là une logique du désespoir, hein. Bon, qui en plus est nourrie parce que parallèlement, il y a les procès de Moscou, y compris les drames familiaux, l'assassinat ou pas de Seydoff, mais en tout cas, suicide de sa fille en Allemagne, etc. Mais tout ça sont des composantes humaines qu'on peut comprendre. Alors, enfin, je crois qu'il faut rapprocher, même si ce n'est pas la même séquence historique, cette affaire-là de la tragédie grecque. Je crois qu'il y a deux... Pour moi, il y a deux expériences en Europe qui sont absolument hallucinantes. C'est la manière, finalement, dont... s'est résolue la guerre civile espagnole par une défaite, mais par une défaite qui s'est jouée autant dans le camp républicain que par rapport à l'adversaire. Et puis, le remake, presque en pire, même s'il est moins connu, c'est la guerre civile grecque, qui est une catastrophe absolue. Avec un parti stalinien qui encore aujourd'hui a des très beaux restes en la matière. C'est le seul en Europe qui soit resté sur ce modèle-là. Mais où pratiquement l'insurrection grecque avait là, pour le coup, le pouvoir à portée de la main. Et on leur a interdit d'en utiliser. Le désarmement, vous avez les photos, hein, le fait d'aller déposer les armes sur les places de village, etc., qui fait que ce qui est resté après, entre 47 et 49, a été purement et simplement assassiné. Alors l'importance dans l'antifascisme, oui, il y a une culture antifasciste qui vient de là, qui a été perpétuée par l'antifranquisme. Pour nous, il y a un microclimat toulousain, mais pour nous, la guerre d'Espagne n'était pas finie. C'était quand est sorti le film de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, les gens sortaient en larmes, etc., etc. C'était notre guerre encore dans les années 60. Bon, évidemment, de là vient aussi, c'est une des composantes de la culture d'un antifascisme radical. Je dis antifascisme radical quand même pour distinguer d'un antifascisme œcuménique ou à minima, qui est que l'antifascisme humaniste, le fascisme, c'est méchant, c'est mal, c'est, etc., mais ne tient pas lieu de ligne politique. Hein, c'est-à-dire que comment vaincre le fascisme, c'est le titre qui a été donné aux écrits de Trotsky sur l'Allemagne. Mais c'est un problème d'orientation politique, ce n'est pas un problème de protestation morale. Il peut y avoir une indignation morale et c'est un point de départ. Mais, et en gros, au XXe siècle, et a fortiori si le problème se repose, malheureusement, ça peut arriver au XXIe siècle, on ne vaincra le fascisme, bien sûr, qu'en défendant les acquis démocratiques, etc., mais que par une politique sociale qui coupe à la racine ce dont il peut se nourrir, que ce soit d'ailleurs dans des pays capitalistes développés ou dans d'autres secteurs de la planète.